Previously.
Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes. Au menu aujourd'hui, New York, unité spéciale.
Retrouvez-moi tous les mercredis dans Previously, le podcast de Télé-Loisirs, pour plonger dans une série phare que non seulement je vous raconte, mais dont je vous livre aussi des coulisses. Des séries policières, ce n'est pas ce qui manque. Mais des séries policières qui traversent les décennies ne sont pas impactées par les modes et continuent à être provocantes, à proposer dans chaque épisode une enquête différente, tout en abordant des sujets contemporains, ben cela peut paraître un petit peu daté, épuisé, voire même lessivé. Une série d'un autre âge. Et pourtant, vous en trouvez d'autres, vous, des séries policières qui reflètent de façon à peine voilée les faits divers du moment. Depuis le harcèlement subi par un transgenre jusqu'à un haut diplomate soupçonné de viol et arrêté alors qu'il s'apprêtait à décoller. La série en question, c'est New York Unité Spéciale, que TF1 diffuse avec succès et qui, aux États-Unis sur la NBC, fait partie d'une franchise autrefois prolifique et dont elle est maintenant la dernière représentante, la plus populaire de toutes, Law & Order SVU. La série a pour cadre le département des crimes sexuels de la police de New York. Le SVU du titre original, c'est une abréviation de Special Victim Unit, en anglais dans le texte. À l'origine, il était même question que ce soit Law & Order Sex Crimes, crimes sexuels. Mais le titre a été jugé un petit peu trop provocateur et pouvait choquer et détourner tout un public. En vedette de cette série, tout d'abord Christopher Meloni, tout droit sorti de Oz, qui tient le rôle d'Eliot Stabler, et Mariska Hargitay dans le rôle de Olivia Benson, et qui a fait ses débuts dans Falcon Crest. Mais il y a bien plus en jeu qu'une simple série policière. New York Unité Spéciale est le maillon le plus populaire d'une myriade d'autres séries. Vous connaissez sans doute Dick Wolf, sans vraiment le connaître. Ouais, vous connaissez son logo qui apparaît dans toutes ses productions. Dick Wolf, un producteur qui a travaillé sur Hill Street Blues, sur Miami Vice, excusez du peu, et qui a produit et créé plusieurs séries policières. Et en 1990, il crée une série d'une redoutable efficacité, Law & Order, New York District en français. Le concept est simple, un crime dans le pré-générique, l'enquête dans la première demi-heure, avec une équipe de détectives, et le jugement dans la deuxième. On mêle donc le genre procédural au genre judiciaire, vu du côté du procureur. Le succès de Law & Order est immense, il est même international. Et ceux qui s'en mordent les doigts, c'est la chaîne CBS qui au départ avait refusé le pilote. Donc, sous le label Law & Order, seront lancées énormément de séries dérivées. SVU sera donc la première, mais elle sera suivie de New York Section Criminelle, Law & Order Criminal Intent, de Law & Order LA, Los Angeles Police Judiciaire, de Law & Order Trial by Jury, New York Cour de Justice, de Law & Order True Crime et bientôt de Law & Order Hate Crime. La licence Law & Order, même avec des séries radicalement différentes, s'adapte aussi à l'étranger. Il y a eu une adaptation française de Section Criminelle. Et oui, en France, il y a une adaptation britannique de New York District et même une adaptation russe de Unité Spéciale. Dick Wolf m'en avait parlé lors d'une de nos rencontres, parce que je l'ai assez souvent interviewé par le passé. Nous étions cette fois au Festival de télévision de Monte Carlo en 2005. Wolf en est l'un des sponsors et tous les ans, il vient en force, accompagné de quelques-unes de ses vedettes.
Alors, quels sont les ingrédients essentiels aux séries New York District ?
Je pense que la chose essentielle qui fonctionne bien sur chacune de ces séries, c'est que vous avez chaque semaine une heure complète, une histoire entière. Vous n'avez pas besoin de savoir qui couche avec qui a un bébé, qui vient d'arriver. Ce sont les mêmes personnages faisant leur travail qu'ils ont l'habitude de faire. Et dans ce cas précis, leur travail, c'est de trouver qui a tué des innocents. C'est leur travail qui est intéressant. Et la série le montre, et pas leur vie privée.
So it's no personal lives, no continuing storyline.
Right.
Ah, exactement.
It's just standalone.
C'est bouclé, une heure, vous revenez pour le suivant, et si vous ne le regardez pas pendant une semaine, un mois ou un an, vous pouvez y retourner. Et ça sera la même série. Vous n'aurez pas à vous demander c'est qui ce nouveau personnage. C'est vraiment dans la grande tradition des séries policières américaines à la Dragnet. Le fait, le factuel, rien que le factuel.
Dragnet. Was just the facts, ma'am. You know, it's.
Il y a aussi un autre aspect, ce sont les scénarios qui sont d'une efficacité redoutable.
Ouais,
ils sont très rapides. Personne ne monte dans une voiture, personne ne va prendre un escalier dans un immeuble. On va droit au but. D'un point de l'histoire à un autre. C'est de la narration intense.
Intense storytelling.
In New York City's war on crime. The worst criminal offenders are pursued by the detectives of the major case squad. These are their stories.
La série d'origine New York District va donc servir de base à la mise en place de cette franchise, d'un espèce de label qualitatif sans pour autant dupliquer la série d'origine, mais elle va en reprendre les ingrédients. C'est les ingrédients dont Dick Wolf vient nous parler. Comme par exemple un style très documentaire, hein, où on suit les enquêteurs ou les procureurs au plus près, presque caméra à l'épaule, un ton volontairement très réaliste. Un rythme donc très soutenu, peu de scènes d'exposition, on passe d'un interrogatoire à un autre, d'un indice à un autre. La prédominance des histoires fortes ancrées dans le réel, qui concernent et intriguent tout le monde. Les acteurs et les actrices sont quasiment interchangeables, hein. C'est l'histoire qui compte. Une absence d'humour, bon, mis à part quelques effets, quelques cynismes, quelques lignes de dialogue par-ci par-là. Pas de feuilletonnant, on peut suivre une histoire sans avoir à suivre les autres. Et un style visuel avec des marqueurs. Par exemple, il y a toujours un texte au début de chaque épisode.
Dans le système judiciaire, les crimes sexuels sont considérés comme particulièrement monstrueux. À New York, les inspecteurs qui enquêtent sur ces crimes sont membres d'une unité d'élite, appelée Unité spéciale pour les victimes. Voici leurs histoires.
Et puis, il y a le ching-ching. Enfin, le chung-chung. Enfin, bon, l'élément qui passe d'une scène à une autre. C'est un élément de transition, quoi. Justement, ça permet de ne pas avoir les scènes traditionnelles dans lesquelles les policiers montent dans la voiture, se rendent sur les lieux avec un coupable, etc., etc. Bref, le ching-ching. Alors, à ce sujet, les Américains parlent de chung-chung. Bon, là, il y a débat. Pour certains, c'est dong-dong. Pour d'autres, c'est... voilà. Mais en tout cas, moi, je dis, c'est le ching-ching. Voilà. La plupart des séries de la franchise Law & Order sont tournées à New York. Celle-ci, tournée initialement dans le New Jersey, dans un ancien entrepôt de la NBC, part en 2010 pour New York. La raison, il n'y a plus de crédit sur les taxes dans le New Jersey. Et il s'avère que le studio de New York, où était tourné New York District, se libérait. À l'origine, les enquêtes portent sur les crimes sexuels tels qu'on les définit dans l'épisode Kiss the Girl and Make Them Die, un épisode qui a été fait au tout début de New York District. Un criminel ayant assassiné une jeune femme prétend qu'il s'agissait d'une séance de sadomasochisme qui a mal tourné. C'est cet épisode qui a donné l'idée à Dick Wolf de créer une série dérivée exactement sur ce thème. Dès la saison 2, les enquêtes policières se finissent aussi souvent devant les tribunaux, où les accusés sont jugés, et l'assistante du procureur Alexandra Cabot, interprétée par Stephanie Marsh, va régulièrement travailler avec Benson et Stabler. Il y aura d'autres assistantes du procureur dans les futures saisons, comme Kazenovac, alias Diane Neal, ou Sonia Paxton, incarnée par Christine Latty. Et il y aura même Sharon Stone pour quelques épisodes en saison 11. Au fil des années, et de la disparition de la série d'origine, Law & Order, la version SVU, la version New York Unité Spéciale, réutilisera le concept de l'autre série, à savoir des histoires « ripped from the headlines », c'est-à-dire inspirées des gros titres et des cas qui font la une des journaux, avec quelquefois de moins en moins de rapports avec un crime sexuel d'ailleurs. En particulier, le premier épisode de la saison 13 évoque le cas d'un haut dignitaire politique italien qui est accusé du viol d'une femme de chambre dans son hôtel. Bon, évidemment, cet épisode a fait couler beaucoup d'encre en France. Ironiquement, beaucoup d'analystes semblaient s'étonner et découvrir que, depuis près de 15 ans, les séries Law & Order adaptaient des faits divers et que donc le cas Strauss-Kahn en ferait partie. En janvier 2018, d'ailleurs, un épisode s'est inspiré du cas d'Hervé Weinstein pour évoquer le harcèlement et la culture du viol au sein de l'industrie aéronautique. La série aborde les enquêtes, des crimes particulièrement glauques, des viols, de la pédophilie, y compris dans la prêtrise, de la discrimination liée à l'homosexualité ou au sida, et donc aborde absolument tous les sujets sociaux. Du côté des personnages, à la différence de New York District et donc de la franchise Law & Order, pour Unité Spéciale, les personnages sont au centre de la série. Et, par petites touches, leurs profils psychologiques, leur passé et leur évolution sont montrés. Et ceci souvent en résonance avec la série elle-même. Dès le lancement, on apprend que l'officier Benson est l'enfant d'un viol. Et que c'est pour cette raison qu'elle a décidé de devenir détective et de rejoindre cette unité. Elle a même été refusée en tant que mère adoptive. Quelques années plus tard, on apprendra que Stabler, lui, voit son mariage partir en lambeaux, qu'il a 4 enfants, puis qu'il va divorcer. Tout cela provoque en lui des accès de colère soudains et assez destructeurs. Au lancement de la série, l'hebdomadaire Entertainment Weekly ironisait sur cet aspect en mettant en parallèle que, dans le même temps, la seule chose que l'on savait de la vie du personnage du détective Mac Logan dans New York District, c'est qu'il aimait des cravates unies. Donc réellement, le focus de New York Unité Spéciale, c'est tout autant les histoires que les personnages et c'est ce qui fait la grosse différence. «
Pour le rôle d'Olivia Benson, Reiko Allesworth, qui incarnait Michel Dessler dans 24 heures chrono, a été pressenti. Pour le rôle de Stabler, c'était Tim Matson qui a été pressenti lui aussi. Mais l'alchimie entre Meloni et Argitay était évidente dès le début. Chris Meloni raconte dans une interview que, lors de l'audition, ils attendaient leur tour et il a commencé à lui raconter une blague. On leur a alors dit que c'était à eux de passer devant les grands responsables de la NBC et il a préféré terminer sa blague pour Argitay. Elle dit que de leur duo, ils sont un peu comme des siamois qu'on aurait séparés. À tel point que leur duo est défini comme le plus hot de toutes les séries policières, le couple de flics le plus sexy du petit écran. Ils sont même en couverture de TV Guide en 2009, vantant leur alchimie en tant que duo de flics à l'écran et dotés d'un sérieux sens de l'humour en dehors du tournage. Le regretté Robin Williams disait à propos de Argitay qu'elle devait jouer dans le Saturday Night Live tellement elle était drôle. Les acteurs affirment que l'humour et les grosses blagues, même quelquefois un peu lourdes, font régner une ambiance décontractée sur le plateau, absolument nécessaire pour pouvoir ensuite jouer sérieusement face aux crimes affreux auxquels leurs personnages sont confrontés. Mariska Argitay, elle, est la fille de l'actrice Jane Mansfield et de Mickey Argitay, qui fut sacré Monsieur Univers. Il est d'ailleurs apparu dans le 100e épisode de la série aux côtés de sa fille. S'impliquant réellement dans la série, Mariska a aussi créé une fondation qui aide les victimes d'abus sexuels. Richard Belzer a suggéré de reprendre son personnage un peu décalé qu'il tenait dans la série policière Homicide. Il s'agit du détective Munch, un enquêteur cynique et apparemment extrêmement nonchalant. Après avoir obtenu l'accord des créateurs de la série, dont Tom Fontana et David Simon, qui a inventé le personnage, Munch revient donc officiellement dans une autre série, New York Unité Spéciale. Munch est donc transféré de Baltimore, là où se passait la série Homicide, à New York.
Munch
a une personnalité très particulière. Il n'évolue pas beaucoup. Il adore les conspirations. Il remet tout en question. Il lit beaucoup, il est cynique. Il n'évolue donc pas. Parce qu'il a sa vision du monde, il est dedans. Et ça fait partie du charme du personnage. On ne sait jamais ce qu'il va dire, mais on sait que ça sera l'opposé des autres. Et vous-même êtes comme ça aussi ? Ouais, je suis beaucoup comme mon personnage. À l'exception que je ne suis pas un policier. C'était Richard Belzer en personne en 2006 au Festival de télévision de Monte-Carlo. Et un autre personnage qui deviendra un régulier de la série dès la saison 2 et qui nous a donné une interview à Monte-Carlo aussi au Festival de télévision en 2010, c'est Finn ou Odafin Tutuola, un vétéran de l'armée. C'est le rappeur Ice-T qui tient le rôle. Marissa Argitay dit d'ailleurs de lui qu'elle ne l'a jamais vu de mauvaise humeur ou même élever la voix. L'interview qu'il nous a donnée est quand même assez réjouissante. C'est très intéressant. Les gens disent tout le temps, ouais, Ice-T, c'est gangsta rap, il joue un flic. Mais je pense, moi, que c'est très cliché que de prendre un vrai gars des rues pour jouer un gars des rues. Si vous lui faites jouer un flic, là, vous obtenez une dynamique intéressante. Quelque chose que tu ne peux pas obtenir avec un acteur traditionnel. Et c'est ce que Dick Wolf a vu quand on s'est rencontrés. Il a compris que j'étais le gars authentique. Pas nécessairement un grand acteur, mais que j'étais le mec.
L.A. motherfucker that been through shit, gangster, all that, shot, done, shot back, that.
Ah là, il a compris tout ça. Et que si j'étais capable de jouer, on aura de la profondeur. Et c'est le truc quand on est acteur que tu dois pouvoir extraire de toi. Quelque chose, une expérience, quelque chose de différent que les cours de comédie. Et c'est ça que j'amène à la série. Un flic avec une dynamique criminelle. Quand vous me voyez aux côtés du méchant, vous savez que le méchant est en danger. Parce que je suis bien plus dangereux que lui. Ne vous dites pas que le criminel va dominer le flic. Parce que le flic, c'est moi. Je peux lui péter la figure au mec. On le sent, et ça fonctionne. Maintenant, Ice-T, en tant que personne, moi, je suis toujours le même.
I'm the same person. I'm not too fond of police.
Moi, je suis pas fan de la police. Hein. Je pense que 90% des policiers font des choses justes, mais que 10% traînent leur propre préjudice avec eux. Ils manquent de respect aux gens en fonction de leur apparence, de leur couleur de peau, parce que j'ai une jolie fille avec moi, une belle voiture. Qu'ils aillent se faire voir. Ce n'est pas parce que je joue un policier que j'aime la police. Je suis honnête, mais le flic que j'incarne dans New York Unité Spéciale, si je devais vraiment être un policier, ça serait ce flic-là. Celui qui est juste et qui ne t'arrête pas pour rien. Dan Florek était déjà le capitaine Kragen dans des saisons de New York District. Il va donc reprendre ici son rôle pendant 15 saisons. Il évoquera même, dans la saison 11, qu'il est un ancien alcoolique. Dans la saison 14, il est lui-même accusé de meurtre parce qu'on le retrouve aux côtés d'une prostituée décédée. Et la série a valu à des acteurs et des actrices des nominations et même des Emmy Awards pour leur prestation en vedette invitée d'un épisode. Ce fut le cas pour Ellen Burstyn, Leslie Caron, Cynthia Nixon et Amanda Plummer, qui sont repartis avec des statuettes. Au fil des saisons, la liste des vedettes invitées prestigieuses de la série est plutôt longue. Wentworth Miller, Scott Foley, Jeremy Irons, Maria Bello, Elizabeth Mitchell, Jennifer Love Hewitt, Scott Bakula, Patricia Arquette, Jane Kaczmarek, Piper Laurie, Amy Irving, Mark-Paul Gosselaar, Pam Grier, Sherilyn Fenn, Dana Delany, Linda Carter, Sybil Shepard, Stacy Keach, Jerry Lewis, Cal McLaglan, André Brouwer, Franco Nero, T.R. Knight, Ellen Burstyn, Luke Perry, Sarah Gilbert, James Brolin, Whoopi Goldberg et Robin Williams pour le 200e épisode. Ils ont tous été guest stars de la série. Certains ont même créé la polémique. Mike Tyson a eu sa première expérience d'acteur qui joue autre chose que lui-même dans un épisode de la saison 14. Et cela a déclenché de nombreuses pétitions, car Tyson a été jugé coupable de viol en 1992 et a fait 3 ans de prison sur les 6 auxquels il a été condamné. Dans une série qui, épisode après épisode, évoque les conséquences des crimes sexuels, sa présence, même s'il prétend avoir été innocent, était quand même très controversée.
Les 3 séries que vous produisez, c'est Unité Spéciale qui maintenant est la plus célèbre aux États-Unis et en France. Il y a une raison, à votre avis? A special... Reason for that, Mariska or
sexe.
Mariska. Mariska.
It's as simple as
that. C'est aussi simple que ça.
Je pense que oui. Law and Order is kind of a,
New York District est l'équivalent un petit peu de l'homme mûr. C'est ce que les femmes disent quand elles ont atteint l'âge mûr. On est au mieux de sa forme et on a bien passé les années. New York District est dans ce cas. Unité spéciale, par contre, c'est le petit jeuneau. C'est le jeune homme de 35 ans, quoi. Et c'est vraiment très différent. Mais je pense que, profondément, la raison est que la narration est de mieux en mieux. Neil Baer, notre producteur exécutif, fait un travail fantastique. Et les gens adorent Mariska et Chris.
I think that's some good reason.
Sur des bonnes raisons.
Willie, thank you very much.
Thank you, Alan. It's always a pleasure. See you next year.
See you next year.
Ouais, parce qu'on se voyait carrément tous les ans. En effet, dès la saison 2 à la rentrée 2000, c'est Neil Baer qui devient showrunner de la série et la portera jusqu'à la saison 12. Neil Baer, c'est un ancien médecin qui a appris le métier d'écriture et de production des séries avec urgence. Sous son influence, on amplifiera beaucoup les révélations sur le passé ou les soucis personnels des personnages principaux. La saison 7, pour la période 2005-2006, voit Marissa Arguitel l'occasion d'un Emmy Award. Elle et Chris Meloni sont tous les deux nominés. Et c'est l'épisode 911, où elle est par accident en contact téléphonique avec une petite fille qui est séquestrée par un criminel, qui lui permet de remporter l'Emmy Award. Au cours de cette saison, Arguitel va aussi tomber enceinte et donc faire la couverture des journaux People. TV Gag la fera même figurer avec son mari et son bébé en couverture d'un numéro. Preuve de la popularité de l'actrice qui porte réellement la série à bout de bras avec Mélanie. Par contre, son personnage, Olivia, ne tombera pas enceinte, car son enfance l'aura confrontée à tout un questionnement quant à donner naissance à un enfant ou pas. Pendant des mois, les épisodes vont donc se tourner en dissimulant le plus possible son état. L'actrice raconte dans une interview que « j'ai porté plus de dossiers et de boîtes en 7 épisodes qu'en 7 saisons ». Pendant l'été 2006, Auguste, du deuxième prénom de son grand-père, Mickey Arguitel, est né.
5 ans plus tard, Marissa Arguitet aura aussi une fille, Amaya, et un second fils, Andrew. Comme deux épisodes avaient été tournés avant la pause estivale, Mariska Hargitay a bien été présente au début de la saison 8. Et c'est Connie Nielsen qui incarnera la détective Dani Beck, qui sera la partenaire de Stabler pendant quelques épisodes. La saison 10, en 2008, s'ouvre par un épisode marquant, où Benson se fait incarcérer dans une prison pour mieux coincer un garde qui viole les prisonnières. Mais la saison est surtout marquée par la production du 200e épisode avec Robin Williams dans le rôle d'un usurpateur qui se fait passer pour un policier et dicte ses conditions à des victimes, voyant en lui-même une figure de l'autorité. Robin Williams n'avait jamais vu la série, mais c'est Richard Belzer qui lui en avait parlé et il a mis le script de l'épisode. À ce jour, Williams reste la guest star que Marissa Arguitay a le plus appréciée et elle le mentionne comme quelqu'un de qui émanait beaucoup de générosité. La saison 11 de la série est cruciale. Elle connaît un changement dans l'horaire habituel de diffusion de la série, qui passe de 22h à 21h. Et ce changement va avoir des conséquences non seulement sur les enquêtes, qui doivent être moins sombres, mais aussi sur l'audience, qui donc chute forcément. Là, on est à 8 800 000 spectateurs. La série ne va jamais s'en remettre. Elle n'atteindra plus jamais les 13 ou 15 millions des années précédentes. Et pourquoi donc avoir commis une telle bêtise? Pourquoi donc avoir sacrifié une telle série à succès en la déplaçant dans la grille? Et bien le coupable, c'est Jeff Zucker, le patron à l'époque de NBC. Si vous vous souvenez un petit peu, je vous en avais parlé à propos de Friends. C'est lui qui avait eu la brillante idée de faire des épisodes plus longs de Friends pour compenser l'absence de nouvelles séries à succès, ou de lancer même Joey, le spin-off de Friends. Bref, voilà, hein, Jeff Zucker. En 2009, il affirme que les séries, ça coûte trop cher, et que de toute façon, ça ne marche plus. Bon, le mec est vachement visionnaire. Et il supprime d'un trait de plume toutes les cases horaires de 22 à 23 heures sur NBC en semaine. Là où habituellement il y a des séries comme Urgence ou Les Experts Manhattan sur une autre chaîne ou même FBI Portée Disparue. Comme toutes ces innovations ne sont nullement efficaces, et ceci depuis des années, il va donc tout remplacer par un talk show mené par Jay Leno tous les soirs en prime time à 22 heures. Ça coûte moins cher parce que c'est un mec devant un micro. Il peut y mettre plus de placements de produits. Et ça lui permet de garder Jay Leno, qui était sur le départ de son émission nocturne quotidienne. Et il sera remplacé d'ailleurs par Conan O'Brien. Résultat, New York Unité Spéciale remonte à 21h avec les conséquences que cela entraîne. Dans cette case horaire, les relations entre NBC et les producteurs de séries clairement fâchés devront repartir à zéro. Et Conan O'Brien fera un procès à NBC qui coûtera 45 millions de dollars au network. Parce que l'expérience a quand même été une catastrophe. En saison 12, c'est Warren Leaf qui devient le showrunner en remplacement de Neil Baer. Mariska Hargitay et Chris Meloni ont renégocié leur contrat. Ils deviennent les acteurs les mieux payés dans une série dramatique de l'époque. Ils ont chacun un salaire de 400 000 dollars par épisode. À la rentrée 2011, Chris Meloni, à savoir Stabler, depuis 13 saisons, doit quitter la série. Les renégociations de son contrat se sont très mal passées. On annonce son départ le 24 mai 2011, 10 jours après la fin de la saison précédente. Mariska Hargitay, qui a renégocié son contrat avec une légère baisse, 395 000 dollars, reste. Pour compenser ce départ, absolument catastrophique, Danny Pino de la série Cold Case et Kelly Giddish rejoignent la série respectivement dans les rôles des détectives Nick Amaro et Amanda Rollins. Pendant l'été, d'autres comédiens sont pressentis pour les rôles, Kevin Alexandro et Michelle Ramon James de True Blood, Rice Kuro de Entourage et David Conrad de Ghost Whisperer. De plus, le producteur décide de recentrer la série non plus sur un duo de détectives, parce que le duo il n'existe carrément plus, mais sur l'équipe tout entière. Ça signifie que pour Munch, Finn et Kragen, ils seront plus présents. Cette autre saison voit un autre départ derrière la caméra, le réalisateur Ted Kotcheff. Ouais, le réalisateur du premier Rambo, avec Stallone. Eh bien, figurez-vous qu'il a été producteur et réalisateur en chef de la série depuis le début. Mais les départs successifs de Neil Baer et de Chris Meloni l'ont convaincu de partir à son tour. Dans une interview, il se rappelle d'ailleurs l'audition au tout début de Hargitay et Meloni. C'était joué. Elle, la fille moderne, dure et professionnelle, avec une compassion toute maternelle pour les victimes, et lui, le mâle alpha, dont la rage nous permet de canaliser notre répulsion à l'égard des crimes qu'il traite. Moi, je sais pas, mais je trouve que M. Kotcheff, il avait très bien perçu la série. Nous sommes en saison 15 à la rentrée 2013. À la fin de la saison précédente, dans un cliffhanger absolument étonnant, Benson est mis en joue par un violeur en série, William Levis, surnommé The Beast, et interprété par Pablo Schreiber. Au début de cette saison, Benson est séquestré des jours durant face aux criminels. Évidemment, cela va la marquer et remettre en question ses capacités à poursuivre son travail auprès des victimes de viol. Ces épisodes sont les préférés de toute la série pour Mariska Hargitay. Richard Belzer, lui, n'apparaît que dans 6 épisodes cette saison. Son personnage, le détective Munch, part à la retraite. De même, un peu plus tard, le capitaine Kragen. Dan Florek quitte la série. Et aussi Danny Pino qui, lui, quitte le rôle du détective Amaro. Benson devient l'officier aux commandes de l'unité spéciale des victimes. À la rentrée 2015, le salaire de Mariska Hargitay est maintenant de 1,5 million de dollars pour chaque épisode. En saison suivante, Rick Head de New York District succède à Warren Leith au poste de showrunner. Mais Head va être transféré très vite sur une autre série de Dick Wolf, Chicago PD. Le vice-président Joe Binden et Henry Thomas, le petit garçon de E.T., apparaissent dans un épisode où Thomas d'ailleurs tient le rôle d'un violeur qui s'avère être innocent après avoir passé 17 années en prison. Et en janvier 2017, on fête le 400e épisode de la série et il est réalisé par Mariska Hargitay. On s'approche, on est en 2017, c'est le début de la saison 19 et il y a déjà un nouveau showrunner, Michael Chernuchin, qui a travaillé sur les autres séries de la franchise, New York District, New York Section Criminelle et aussi sur Chicago Justice. Brooke Shields tient un rôle très important, Shella Porter, la grand-mère biologique de Noah, le fils adopté par Olivia Benson, le fils qui est né d'une prostituée qui a été assassinée. Et Shella Porter fait donc un procès à Olivia Benson pour récupérer son fils. Et lors de cette saison, plusieurs personnages de la série New York District, comme Jack McCoy, le docteur Olivet et la juge Bart, ressurgissent le temps d'un épisode. Voilà, on est arrivé carrément à la saison en cours, la saison 20. Et là, à la fin de cette saison, au mois de mai, on en sera à 452 épisodes. Le record approche et Dick Wolf est sur les charbons ardents. Ouais, je vais vous expliquer parce que le record de la plus longue série américaine de prime time est jusqu'alors détenu par un western, Gunsmoke, qui aura duré 20 ans, de 1955 à 1975, totalisant donc 635 épisodes. Ouais, bah à cette époque, il y avait un peu plus d'épisodes par saison. Mais donc, en termes de saison, de durée à l'antenne, quand New York Unité Spéciale abordera sa 21e année en septembre prochain, elle deviendra automatiquement la série qui détiendra le record de longévité en prime time. Dick avait déjà vu cela lui passer sous le nez avec New York District, qui avait été annulé en 2010, à quelques mois de dépasser donc les fatidiques 20 années. Durée qui aurait permis à la dite série de ravir le record de Gunsmoke. Là, ben, on croise les doigts pour lui, parce que ça serait un peu sa revanche. Et en attendant, Dick Wolf doit gérer une nouvelle franchise télévisuelle, les Chicago. Chicago Fire, Chicago Police Department, Chicago Med ou Chicago Justice. Bref, le monsieur est infatigable. La semaine prochaine, changement de ton. Oui, on sera plus dans le policier mais dans le médical. Mais par contre, quasiment la même durée. La semaine prochaine, je vous emmènerai sur les traces de Grey's Anatomy. Notre podcast est à retrouver sur les plateformes Deezer, Podcast Addict et Apple.